Kulturstar Berlins.
It's Morning Edition from NPR News.
FC Kings an Bieberhausen.
France Inter, le 18-20.
Depuis le mois de septembre et des manifestations à répétition, Haïti a relevé 42 morts. Et qui s'en soucie? La rue réclame le départ du président Jovenel Moïse. Elle veut la vérité sur le scandale Petrocaribe dont on reparlera des enjeux et puis rien. Le pays est seul, c'est avec l'écrivain Lionel Trouillot qu'on en parle dans un instant. Le bruit du monde est au Laos ce soir où 5 à 30% des bombes lancées par les Américains pendant la guerre du Vietnam n'ont pas explosé. Des bombes qu'on appelle sous-munitions, vous imaginez ce que ça veut dire aujourd'hui encore. Le bruit du monde, la suite avec Amélie Perrier, des feux en Australie et les 102 ans de la révolution bolchevique. 18h50, le monde selon Trump, saison 3 et les auditions publiques qui commencent cette semaine au sujet de l'impeachment de Donald Trump. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four en Espagne. L'Espagne qui est une preuve de plus que la crise de représentation, qu'une crise de représentation parcourt l'Europe en ce moment. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Lionel Trouillot.
Bonsoir.
Le romancier et poète haïtien que vous êtes est en colère et l'a dit dans une tribune le mois dernier, c'était sur Mediapart. On est heureux de profiter de votre passage en France parce qu'ils sont rares pour l'entendre, cette colère-là. Ce que vous dénoncez, au fond, c'est notre silence à nous, les Occidentaux, mais les médias occidentaux au sens très large. Ça fait un an, un peu moins, mais à répétition régulièrement qu'Haïti est dans la rue, très régulièrement, pour demander le départ de son président, pour demander que soit réglée l'affaire Petrocaribe dont on parlera. Décrivez-nous à quoi ça ressemble Haïti en ce moment. Comment on vit aujourd'hui en Haïti?
On ne vit presque pas, puisque la population dans son ensemble, pas seulement dans la capitale à Port-au-Prince, mais dans les autres villes du pays, a décidé d'utiliser la stratégie d'un pays fermé. Expression aujourd'hui connue, pays lock. Donc l'administration publique, les commerces, les activités, les écoles, tout est pratiquement fermé. Alors, il y a des jours où il y a un peu d'activité, on respire un peu, on profite pour faire des courses, et puis ça recommence. Mais c'est depuis, au fait, plus d'un an. Ça a commencé en juillet 2018.
Et ça avait d'ailleurs démarré avant aussi. Il y a eu des manifestations, en gros, assez vite, après l'élection de Jovenel Moïse, au fond, qui a été élu il y a 2 ans seulement. Il faut rappeler quand même 20% de participation. Ça donne une idée de cette élection-là.
Et énormément de suspicions autour du résultat de la présidentielle, mais surtout autour des résultats des élections législatives.
Qui ont fait que...
Et en fait, d'ailleurs, c'est un parlement dans lequel le peuple ne s'est jamais reconnu. Vous parliez de crise de représentation. Il y a certainement, dans un pays comme Haïti, une crise de représentation. Ce sont des gens qui, justement, ne représentent personne. Et c'est cela que la population est en train de dire depuis plus d'un an. Et ce qui peut, en effet, provoquer de la colère, c'est non seulement le silence, mais comme une incapacité de comprendre la nature du phénomène ou des phénomènes qui ont lieu actuellement en Haïti.
Alors, on va y venir, mais quand même, vous le disiez, effectivement, plus d'un an, ça ne veut pas simplement dire qu'on bloque depuis plus d'un an, pas seulement, mais ça veut dire qu'il y a eu des morts, ça veut dire qu'on tire dans les rues, ça veut dire qu'il y a tout ça aussi, et c'est important de le dire et de le rappeler, parce que ça aussi, on a l'impression que c'est à bas bruit. Il y a Jean-Marie Théodat, que vous connaissez peut-être, qui est géographe, et qui a écrit une tribune magnifique dans Libération le mois dernier. Il parle même d'une guerre civile. D'une ambiance de guerre civile, en tout cas.
Une ambiance de guerre civile, sauf que c'est la police qui est armée et qui malheureusement est de plus en plus utilisée comme force de répression, de répression politique par Jovenel Moïse et son parti, le PHTK, et des gangs qui sont armés souvent par le gouvernement. Et il y a d'ailleurs nombre de rapports des organismes de défense des droits humains, des organismes, même policiers d'Haïti, établissant faisant état de contact entre les parlementaires, les ministres et des gangs qui sévissent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Haïti, c'est qu'il y a une répression qui est faite, qui est très dure. D'ailleurs, il y a eu récemment une quinzaine de morts. Vous parliez de 42, il faudrait ajouter ces 15 ou 42, ça en fait ça en fait d'autres, dans le quartier du Bel Air, qui est un quartier populaire, parce que les manifestants, évidemment, élèvent des barricades, et les soirs, ou pendant la nuit, vous avez des voitures des véhicules sans immatriculation, dans lesquels il y a parfois des personnes en uniforme de policiers, dans lesquels il y a parfois des civils armés, et qui tirent dans ces quartiers populaires.
Vous avez même décrit, est-ce que c'est vous qui avez décrit cette tribune que vous avez fait à Mediapart, un sénateur qui est capable lui aussi d'être armé et de tirer, de zone de non-droit total,
La vidéo existe.
Et qui n'a jamais évidemment été inquiété.
Qui n'a jamais été inquiété.
Dans sa description de guerre civile, Théodate, il parle de guerre civile parce qu'il parle d'une ambiance de pénurie, de bidons d'eau pour boire, d'essence qui n'est plus là. Donc de gens qui sont au fond prisonniers de leur propre maison et de leur propre ville, parce que comme vous le décriviez, sortir c'est dangereux. Et de toute façon, sortir pour quoi faire, puisqu'il n'y a plus rien autour en fait. Plus d'administration, plus d'école, plus d'hôpitaux, plus rien.
Il faut comprendre aussi que c'est un sacrifice consenti par la population. Moi, ça me revient toujours cette dame qui dit « Moi, j'ai 3 enfants, je n'ai rien, je souffre, mais on va continuer. Tant qu'il ne sera pas parti, nous continuerons ce mouvement de pays loc. » Parce que c'est ça qui est un peu agaçant. Je ne comprends pas pourquoi on veut enlever à ce qui se passe en Haïti la dimension politique. De la révolte. C'est un peuple qui dit cela suffit, assez de faux-semblants, d'élections truquées tout le temps, on ne veut pas de cette continuité. C'est un pays qui ne produit pas de justice sociale. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez pratiquement une bande de voyous au pouvoir dans un accord de gestion odieux avec une partie au moins de la bourgeoisie haïtienne. Et tout le monde, en dehors de ce groupe de voyous, demande un changement réel, un changement de système, une réforme
pour avoir un État
enfin au service de la nation. Et puis les procès, parce qu'il y a eu des massacres dans les quartiers populaires, et puis le procès Petro-Caribé dont vous parliez tout à l'heure.
Alors, deux choses là-dessus. D'abord, depuis combien de temps vous n'avez pas entendu la voix du président Jovenel Moïse
au fond ? Il arrive de parler de temps en temps.
D'accord.
Il arrive de parler de temps en temps.
En général, pour dire quoi, sincèrement ?
En général, visiblement, dès qu'il prend la parole, ça veut dire que c'est les manifestations le lendemain.
Alors, on va rappeler ce que c'est que le central Petro-Caribé. C'est finalement assez simple. Venezuela, Chavez avait lancé un fonds, ça date de 2008, dans mes souvenirs, peut-être un peu avant, 2007 ou 2008. L'idée, c'était produits pétroliers contre projet de développement. C'est comme ça, en tout cas, que le Venezuela comptait se rembourser. C'est comme ça que ça s'est passé dans une bonne partie du continent. Et qu'est devenu l'argent en Haïti, alors ?
Justement.
Et on parle de quelle somme ? On parle de
3 milliards de dollars. Et la Cour supérieure des comptes, qui est un organisme d'État en Haïti, a produit 2 rapports dans lesquels il est clairement démontré que cet argent a été, il y a eu des entrepreneurs, des hommes politiques,
et y compris Jovenel Moïse,
le président de la République, qui s'est fait passer pour ingénieur, qui avait des contrats en tant qu'ingénieur alors qu'il n'est pas du tout ingénieur. Donc c'est ce haut degré de corruption, le peuple haïtien a dit c'est assez. Et l'une des exigences de la population, c'est la tenue de ce procès, qui évidemment ne peut pas se tenir tant que Jovenel Moïse restera au pouvoir.
Comment fait-il aujourd'hui obstacle à la justice ? La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est de toute façon, y a-t-il aujourd'hui une justice, considérez-vous, haïtien, qu'il y a une justice qui fonctionne suffisamment pour qu'on puisse juger ces gens-là sur ce procès Petro-Caribé ?
Pas avec ce pouvoir, c'est pour cela qu'il y a une grande réunion entre pratiquement tous les partis d'opposition. Ça s'est tenu sur 2 jours, les 8 et 9 novembre. Il en est sorti une résolution avec quel mécanisme établir pour le choix d'un président et pour le choix d'organismes de transition. Ce qui arrive en Haïti est que c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos amis de l'Occident. Ce pays est au bout de quelque chose. Il n'y a pas de continuité possible. C'est pour ça que quand on entend les déclarations de représentants des pays occidentaux parlant de dialogue dans une sorte de continuité, il n'y a pas de continuité possible. Ce système qui a fonctionné en Haïti, il ne peut plus produire de consentement. Et c'est pour ça que l'ensemble de la population demande un recommencement. Mais pas quelque chose simplement le départ du président. Le départ du président est une condition pour arriver à la possibilité de mettre en place cette énergie collective pour arriver à ce changement.
Pour qu'il y ait un recommencement, il faut aussi qu'il y ait des hommes. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut prendre le relais, prendre la main pour faire ce récit, comme vous dites, recommencer tout à zéro dans la démocratie haïtienne?
Certainement, il y a des hommes et des femmes. Moi, j'ai été pas surpris, mais j'ai été vraiment touché par l'engagement de ces jeunes issus quand même de la moyenne bourgeoisie qui ont créé ces mouvements Petro Challengers et qui ont été les premiers à demander la tenue du procès Petro-Caribé. J'ai été aussi touché par l'engagement des militants de base très jeunes dans les quartiers populaires. Ce sont ceux-là justement que le régime de Jovenel Moïse s'en va assassiner le soir. Et évidemment, il y a aussi ces partis politiques d'opposition qui depuis 8 ans, puisque Jovenel Moïse est dans la continuité d'un certain Michel Martelly, et qui a aussi ces partis politiques qui depuis 8 ans dénoncent ce qui est en train de se passer en Haïti.
Vous l'avez évoqué.
Donc je n'ai pas d'inquiétude quant à
une relève, quant à la possibilité, alors, d'organiser de nouvelles élections, vraiment de repartir sur une base zéro.
Les Haïtiens le disent, l'urgence pour eux n'est pas la tenue immédiate de nouvelles élections. Il faut justement réformer le système judiciaire.
Il vous faut un gouvernement de transition, de technocrates,
en gros. Une autorité de transition, il parle d'une autorité nationale.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que on écoute ce qui se passe en ce moment au Soudan, au Liban, et on entend ça tout le temps. Donnez-nous d'abord un gouvernement de technocrates qui met les choses en place, et puis ensuite on verra, on discutera d'une transition politique.
Et parce que dans un pays comme Haïti, les écarts entre riches et pauvres sont trop grands. Il n'y a pas de sphère commune de citoyenneté, et ce leurre de prétendue élection que tout le monde sait plus ou moins truquer, auquel personne ne participe tous les 4 ans, ça ne fonctionne pas. Il y a donc quelque chose à repenser.
Vous le disiez, Lionel Trouillot, 70% d'Haïti a moins de 30 ans. Ce sont des jeunes gens qui avaient 20 ans au moment du tremblement de terre. Et c'est à ce moment-là qu'on les voit aussi émerger dans Haïti. Ce sont des jeunes qui n'ont connu que insurrection, manifestation, corruption, pendant que, changement de gouvernement, les parents, eux, ont connu la dictature. En gros, si on résume de manière extrêmement lapidaire votre pays, c'est à ça que ça se résume. Est-ce que ce mouvement-là, cette fois-ci, peut refonder la démocratie haïtienne telle que vous l'appelez? Est-ce qu'il a quelque chose de différent aujourd'hui?
Je ne dirais même pas la refonder, la fonder.
Ou la fonder.
La fonder, c'est parce pire. Que ce qui s'est passé, c'est qu'au lendemain de l'indépendance d'Haïti, avec l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, donc le véritable fondateur de l'État haïtien, il y a eu ce partage odieux des richesses entre une bourgeoisie de commerce et une sorte de bourgeoisie d'État qui a toujours été au pouvoir. Et pendant longtemps, cette alliance a fonctionné avec un État qui n'a jamais été au service de la nation et toujours dans la reproduction d'inégalités sociales, aujourd'hui insupportables. Ce système-là, aujourd'hui, il ne peut plus produire de consentement. Et c'est cela que les gens demandent, la fin de ce système que Jovenel Moïse et sa bande représente de manière tellement crapuleuse et finalement ridicule.
Et vous le disiez, on est donc arrivé à un moment d'exaspération qui semble être un mouvement d'exaspération maximum. Est-ce que, j'ai envie de vous reposer la question, est-ce que ce mouvement peut fonder, est-ce que c'est ce mouvement-là, en fait, qui peut fonder une démocratie haïtienne telle que vous la voulez? Est-ce que c'est l'instant, c'est maintenant, en
c'est
fait?
Maintenant. C'est maintenant, et c'est pour cela que malgré les souffrances au quotidien, la population, parce que c'est la population haïtienne qui est dans l'opposition. Souvent, quand on parle aux diplomates étrangers, ils vous disent l'opposition, mais c'est le pays qui est dans l'opposition. C'est pour cela que la population dit, nous voulons le départ de Jovenel Moïse pour repenser ce pays, poser de nouvelles bases pour qu'on arrive enfin à une société au moins basée sur les principes d'équité et d'égalité.
Vous avez entendu l'actualité aujourd'hui à 18h et vous Morales qui s'en va en Bolivie. Est-ce qu'il y a une possibilité? Il l'a dit il y a quelques jours, je crois, qu'il n'est pas accroché non plus au pouvoir, Jovenel Moïse. Est-ce que vous croyez en ça ou pas?
Écoutez, il n'y a pas de réconciliation possible entre Jovenel Moïse
et la rue et le peuple.
Et le pays, combien de mois pourra-t-il rester au pouvoir parce qu'il ne veut pas partir? Il a encore, dit-on, l'appui des États-Unis. Je vous laisse la responsabilité de demander à la France s'il a l'appui de la France.
Je ne veux pas me prononcer là-dessus.
Ouais. Mais écoutez, c'est une situation de pourrissement.
Mais vous avez raison, il a l'appui de la communauté internationale, disons les choses clairement. Il a cet appui-là. En tout cas, on n'a pas entendu grand-chose venir.
On n'a pas entendu grand-chose, disons qu'il n'a pas cet appui-là. Mais finalement, il n'y a plus que les États-Unis à dire ouvertement, officiellement, qu'ils l'appuient. Bon, moi, ce que j'ai entendu de la position de la France, c'est de demander une sorte de dialogue entre tous les acteurs politiques. Écoutez, la population ne veut plus dialoguer avec Jovenel Moïse. Et je le disais un peu quand un secrétaire d'État dit la France veut accompagner le dialogue. Écoutez, le président ne peut l'accompagner que vers la sortie.
C'est clair. Lionel Trouillot, comment vous expliquez justement, ce sera ma dernière question, et c'est bien ce qui justifiait votre colère d'ailleurs lorsque vous l'écrivez dans Mediapart, on couvre Hong Kong, et d'ailleurs regardez comme autour tout le monde, là le Royaume-Uni aujourd'hui encore qui s'émeut, on couvre le Chili, on couvre la Bolivie, on couvre tout ça, pourquoi est-ce qu'Haïti est toujours sous les radars?
Écoutez, je ne veux pas parler d'une hiérarchie mondiale des races dans la conscience occidentale, mais il y a peut-être un peu de cela. Il y a surtout le fait, parce qu'il faut le dire, que cette continuité exécrable a été en grande partie mise en œuvre par la communauté internationale. Les problèmes sociaux s'aggravaient en Haïti, mais que disaient les diplomates? Il y a eu des élections, tout va bien. Et alors qu'ils disaient que tout allait bien, voilà la réalité, c'était ces écarts sociaux, c'était ce discours revendicatif. Mais c'est intéressant quand même, quand on parle de Hong Kong, on dit des militants pro-démocratie. Quand on parle d'Haïti, on dirait que ce sont des hordes de sauvages qui sont dans la rue, qui ont faim et qui cassent tout. Alors qu'il y a une dimension politique clairement exprimée par la population haïtienne.
Et ce message, il est passé, Lionel Trouillot. Merci beaucoup, on espère vous revoir très vite pour pouvoir parler de la suite dans votre pays. Merci beaucoup. Je rappelle au passage quand même que votre dernier ouvrage s'appelle « Ne m'appelle pas capitaine » et c'est publié chez Actes Sud. Ça l'était l'année dernière, en 2018. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Sintès, sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde. Ça se passe au Laos, qui cherche toujours les bombes de la guerre du Vietnam. Figurez-vous, des bombes qui n'ont pas explosé. 80 millions de sous-munitions, c'est un chiffre énorme. Le bruit du monde encore et Amélie Perrier, quand l'Australie, Amélie, lutte contre les incendies.
État d'alerte maximale et Sydney est menacé.
Le monde, selon Trump, c'est la saison 3. Loïc Glory, bonsoir. Grosse semaine d'audition en vue chez vous.
Oui, absolument, la politique américaine en direct à la télé, premières auditions publiques dans le cadre de cette affaire d'impeachment. C'est comme une série sur Netflix, Fabienne, il faut capter l'intérêt du public.
Voilà, alors sauf que c'est pas payant, le monde à l'envers, Jean-Marc, pour bonsoir.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jean-Marc. L'Espagne, à l'image de beaucoup de pays d'Europe finalement.
Ingouvernable, c'est pas la seule démocratie dans ce cas, et ce n'est pas un hasard.
Allez, hasta pronto, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Danemark, Agnès Obel, Island of Doom sur France Inter.
Nature of the way as the roses grew, they told me, they told me.
Le bruit du monde ce soir est au Laos. Alors que s'ouvre ce soir à Paris le Forum de la paix, savez-vous que plus de 40 ans après la guerre du Vietnam, le Laos reste le plus pollué au monde par les bombes à sous-munitions. On bombardait le Laos parce qu'il servait à approvisionner, je vais y arriver, le Vietnam. Les accidents liés à ces explosifs ont déjà fait de nombreuses victimes et plus de 15 000 survivants ont besoin d'une aide à vie, notamment dans les campagnes. Le reportage est signé Yang Galik qui s'est rendu dans la province de Yupan et c'est dans le nord du pays.
C'est l'une des régions les plus reculées du pays, près de la frontière vietnamienne. Au milieu de ce paysage montagneux parsemé de champs et de rizières, un chemin de terre sinueux permet d'accéder au village de Hue Hu. Ici, les habitants vivent toujours sous la menace quotidienne des bombes à sous-munitions. Chupor Vang nous accueille dans l'unique pièce de sa petite maison en bois. Ce jeune fermier se souvient du jour où sa vie a basculé à l'âge de 17 ans. Son bras gauche a été arraché à cause d'une bombe qui a explosé sur le chemin de l'école.
Je suis allé dans le plus grand hôpital de la province pour me faire soigner. Les frais médicaux ont coûté cher, presque 1000 euros. Ma famille était pauvre, on a dû emprunter de l'argent à des amis et des voisins. Il nous a fallu 5 ans pour rembourser nos dettes. C'était vraiment dur après l'accident. Je n'étais encore qu'un adolescent, je ne pouvais plus sortir. Jouer avec mes amis, aller à l'école. J'ai été obligé d'arrêter mes études, mais heureusement, j'ai pu me marier. Aujourd'hui, je peux compter sur l'aide de ma famille. Mais c'est toujours difficile pour moi au quotidien. Ma femme s'occupe des enfants, de la maison et des vaches. Sans elle, je n'aurais pas pu m'en sortir.
Lorsque vous étiez adolescent, lorsque cet accident vous est arrivé, est-ce que vous étiez au courant du problème des bombes à sous-munitions ?
Non, à cette époque, on n'avait pas d'informations, on ne savait rien.
Selon les estimations, au Laos, près de 80 millions de sous-munitions ne se sont pas déclenchées pendant la guerre. Aujourd'hui, ces bombes peuvent exploser au moindre mouvement. Les enfants en sont les premières victimes, d'où l'importance de la prévention. Dans la commune de Muang Ho, les équipes de l'ONG Handicap International vont à la rencontre des habitants pour leur expliquer quels sont les risques. Dans l'école du village, on apprend aux enfants à ne pas jouer avec les bombies, ces petites bombes qui ressemblent à des balles ou des boules de pétanque. Julien Kampeners coordonne le programme de déminage pour Handicap International.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne, par exemple, les enseignants dans chaque village. Ça fait 20 ans qu'il y a des projets d'éducation en risque. On voit aujourd'hui, c'est clair, qu'il n'y a plus autant d'accidents qu'au début des années 2000, que dans les années 90. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une contamination d'engins non explosés qui est énorme. C'est quand même le pays qui a été le plus bombardé dans l'histoire hein, par habitant. 2 millions de tonnes de munitions pendant 10 ans ici au Laos, soit un bombardement toutes les 8 minutes.
Les accidents liés aux explosifs sont de moins en moins fréquents. On en compte désormais moins d'une cinquantaine par an grâce à la prévention et au déminage progressif des terres agricoles. Un véritable soulagement pour les villageois.
C'est très utile pour nous d'avoir toutes ces informations et ces conseils sur les explosifs. Quand je travaille dans les champs ou dans mon jardin, parfois j'ai peur de tomber sur une bombe. Mais on se sent quand même plus en sécurité grâce à la prévention et au déminage. On a l'esprit plus tranquille.
Malgré tout, le danger est toujours présent dans les rizières, les cours d'eau, sur les routes et parfois au pied des maisons. Ici, le chef du village, Phon Vinh, a donné l'alerte car il a trouvé une bombe de mortier enfouie dans son jardin.
Je suis tombé sur cette bombe en nettoyant les canalisations d'eau.
Vous trouvez souvent des explosifs comme celui-là ?
Non, c'est assez rare d'en trouver près des maisons. D'habitude, les bombes sont plutôt dans les champs ou dans les forêts. Avant, il y avait pas mal d'explosifs ici. Aujourd'hui, on en voit moins avec les opérations de déminage. Mais il y a toujours un risque. Nous, les paysans, on essaie de faire très attention quand on va dans les champs et dans les rizières.
À la recherche du moindre explosif, les démineurs sillonnent les champs et les rizières avec leurs détecteurs de métaux. Une scène presque banale dans la province de Huapan, où il reste encore des milliers d'hectares à nettoyer.
Les engins explosifs qu'on peut trouver, ça peut être des bombes, des obus d'artillerie, des obus de mortier, des grenades et puis les sous-munitions.
Ancien commando de marine dans l'armée française, Yvon Le Cheventon a rejoint Handicap International pour superviser les opérations de déminage.
Il y a un gars qui se trimballe avec un mégaphone là. Il prévient la population de se tenir à distance parce qu'on va préparer la démolition de ce qu'on a trouvé dans la journée. Il y a encore beaucoup de sous-munitions comme ça qui sont dans les rizières, dans les terres qu'on travaille, sur les routes. C'est un constant danger. Il y a encore du travail à faire.
Des opérations de déminage longues et coûteuses, sachant qu'environ 30% du territoire laotien est toujours pollué par les bombes à sous-munitions et les explosifs de guerre. Il faudra encore attendre plusieurs décennies, peut-être jusqu'à la fin du siècle, avant que le pays en soit définitivement débarrassé.
Yann Gallic au Laos, dans la province du Wapan, pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde passe aussi sous les radars et voici ce que ça donne. Ça se passe en Australie, Amélie. L'état d'urgence a été décrété parce que vous l'entendez, une partie du pays est ravagée par les flammes.
Une situation catastrophique, disent les autorités, qui insistent, le terme n'est pas anodin, catastrophique. Cela veut dire des morts, possiblement, d'autant que les feux menacent aujourd'hui la région de Sydney. La plus grande ville australienne est en état d'alerte maximale, c'est inédit. Des vies et des habitations sont en danger, avertissent les autorités. Elles demandent à la population de suivre à la lettre les consignes de sécurité et d'évacuer sans discuter si c'est demandé. Écoutez ce témoignage filmé au portable à Bobbin, c'est une ville tout à l'est de l'Australie, à 350 km au nord de Sydney.
This is 1 o'clock in the morning.
Il est 1h du matin à Bobbin, dit cet homme.
We've got a two-story house.
On a une maison à 2 étages là, totalement prise dans les flammes. Les pauvres, ils ont tout perdu. On est littéralement encerclés par le feu, partout où vous regardez.
Everywhere you look,
vous voyez le feu.
It's just fire.
Putain de feu partout. Depuis ce week-end, on compte 3 morts et des dizaines de feux pas encore maîtrisés. Un nuage de fumée toxique plane sur les régions touchées et même bien au-delà. Il a été signalé ce nuage après 1500 km de l'autre côté de la mer en Nouvelle-Calédonie. Demain, on attend sur cette région de grosses chaleurs et des vents forts et donc encore plus de feux de brousse. Plus de 350 écoles sont fermées. L'armée a été appelée en renfort des pompiers. Et cette saison des incendies inquiète les scientifiques bien davantage que les précédentes. Car à cause du réchauffement climatique, les fortes températures, la sécheresse, les vents forts, eh bien la saison a commencé plus tôt que d'habitude et risque de s'aggraver à mesure que l'été approche. Cela attise aussi les débats politiques. Le gouvernement est accusé de mettre de côté la question climatique pourtant centrale ici.
Ces jours de commémoration en France, on sait Amélie, en Russie on célèbre les 102 ans de la révolution bolchévique.
La Russie où la figure de Lénine est mise à mal ces derniers jours. C'est d'abord une série documentaire. Lénine, elle doit être diffusée très bientôt à la télé russe. L'ambition du scénariste est claire, je cite, en finir avec le mythe de Vladimir Ulianov. La légende du gentil Lénine contre le méchant Staline s'avère fausse, ajoute-t-il, parce que c'est bien Lénine qui a lancé la terreur rouge selon le scénariste. Alors la série a demandé 4 ans de travail. Des officiers dirigés par l'ancien chef des archives du FSB ont sorti des pépites de la documentation des services secrets, dont une lettre d'août 1918 dans laquelle Lénine appelle à la mort de 2 millions de paysans jugés trop riches, les Koulaks, ils seront persécutés. Un mois plus tard, Lénine crée des camps de concentration pour isoler ce qu'il désigne comme les classes ennemies.
Мне нужна партия, которая полностью возьмет на себя работу там, в России.
Autre sortie récente, Lénine, l'inévitable. Là, c'est un film de Vladimir Kotinenko et Lénine n'est pas du tout représenté comme un prolétaire, bien davantage comme un petit bourgeois qui adore Wagner à l'opéra. Le long métrage raconte aussi le retour de Lénine en Russie en 1917 après son exil en Suisse. Un voyage en train à travers l'Allemagne en pleine Première Guerre mondiale. Un voyage possible seulement grâce à l'aval du Kaiser, dit le film. Lénine, suppôt des Allemands, ennemi des Russes, voilà le message. Le Kremlin, lui, ne cache pas non plus sa préférence pour Staline, le vainqueur des nazis, plutôt que pour Lénine. Mais au sein de la population, Lénine reste quand même très populaire. Selon un sondage réalisé il y a 2 ans, les Russes, à 56%, gardent une image positive de l'homme. Donc l'image n'est pas près de starir quand même en Russie. Et puis Fabienne, vous avez peut-être passé un week-end de fête et de débauche.
Bien sûr, c'est tout à fait moi.
Vous me l'avez raconté tout à l'heure. Sachez que si le cœur vous en disait, vous pouviez prolonger aujourd'hui à Cologne, en Allemagne. Car à 11h11, ce 11 novembre, voici ce qui s'y passe. Et voilà, c'est l'ouverture de la saison du carnaval, la saison la plus importante après Noël à Cologne. Elle débute donc le 11 novembre à 11h11 et va durer jusqu'au mercredi décembre de l'année prochaine, soit le 26 février. Aujourd'hui, les habitants de Cologne et très nombreux visiteurs allemands et étrangers se sont déguisés, y compris au travail, car la journée n'est pas fériée en Allemagne. Rassemblement monstre dans la ville, une immense fête jusqu'aux folles journées mardi gras. On vous y a pas vu en fait. Hein,
mais absolument, j'étais déguisée. Tiens, vous savez quoi? En Dionne Warwick, parce que c'est totalement mon physique. Okay. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on. De Dionne Warwick sur France Inter. Ça date de 1964. Allez, direction New York, où nous attend Loïc Lory.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Et Trump, saison 3, Loïc, c'est la procédure d'impeachment qui arrive cette semaine en direct à la télévision américaine. Les premières auditions publiques pour destituer le président débutent donc là, ce mercredi.
Oui, et grand spectacle politique en perspective. C'est la semaine la plus importante de cette procédure d'impeachment, Fabienne, en tout cas jusqu'à présent. Pourquoi? Eh bien parce qu'après des semaines d'auditions à huis clos, l'enquête en destitution devient donc publique. Les interrogatoires sont filmés, les républicains vont pouvoir y participer, ce qui promet de belles empoignades. Les faits pourtant sont a priori connus, les pressions de Donald Trump sur l'Ukraine, ils sont corroborés par les auditions qui ont eu lieu à huis clos, mais dont le contenu a largement fuité. On parle de 2677 pages de témoignages, mais l'intérêt est ailleurs pour les démocrates. Il s'agit de capter l'intérêt du public américain pour pouvoir le convaincre que Donald Trump doit être destitué. Écoutez, Brian Stelter, c'est un consultant de la chaîne CNN.
Je crois que cet épisode 1 est très important. Je déteste dire ça. On parle de notre démocratie qui est en danger. Mais d'un point de vue télévisuel, les démocrates doivent taper fort avec cet épisode 1. C'est pareil quand on regarde Netflix ou qu'on écoute un podcast. On continue si on est intéressé par le premier épisode. Les démocrates le savent et je suis curieux de savoir quel spectacle ils vont mettre en place pour attirer l'attention des gens.
Voilà, l'impeachment comme un feuilleton télé pour orchestrer tout cela. Fabienne, drôle de hasard, il y a un homme qui dans le passé a écrit des scénarios de films policiers pour Hollywood. C'est un élu de Californie, Adam Schiff, l'homme qui supervise cette enquête. Il est à la tête de la commission du renseignement. Donald Trump, lui, l'appelle Adam Schiffty, le vicieux. Le président américain demande même à ce qu'il témoigne lui aussi dans cette affaire. On ne comprend pas bien pourquoi.
Alors c'est un contre-feu parmi d'autres, hein, Loïc. Les Républicains, en tout cas, eux, veulent casser justement ce scénario qui a été mis en place par les démocrates.
Eh bien oui, c'est que les faits ont ici moins d'importance que l'opinion publique. Les Républicains en l'état font bloc de toute façon derrière leur président. Ils ne voteront pas la destitution au Sénat si jamais la procédure arrive à ce stade. Depuis des semaines, ils dénoncent plutôt une chasse aux sorcières. Ils posent également des exigences a priori intenables pour les démocrates. Ils demandent notamment à ce que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, l'un des personnages clés de cette affaire, soit entendu. Ils réclament surtout que l'identité du lanceur d'alerte par qui tout a débuté soit révélé, c'est le cas de Lindsey Graham, sénateur républicain et grand soutien surtout de Donald Trump.
Si la procédure d'impeachment ne nous permet pas de savoir qui est le lanceur d'alerte, elle sera invalide. Parce que sans lui, nous ne parlerions pas de tout cela. Alors si ce lanceur d'alerte n'est pas convoqué, la procédure sera morte au moment d'arriver au Sénat.
Voilà, histoire de couper court à tout débat, Fabienne, manière aussi de mettre la focale sur l'identité secrète de ce lanceur d'alerte qui est l'objet à Washington de toutes les spéculations, plutôt que sur le contenu de cette enquête ukrainienne. Donald Trump, lui, n'est pas le dernier pour en rajouter une couche. Aujourd'hui, ce matin, sur Twitter, il a demandé à ce que ce fameux lanceur d'alerte, mais aussi son avocat et Adam Schiff, dont on parlait, fassent tous les trois l'objet d'une enquête pour fraude.
Voilà, et ben dites donc, rendez-vous mercredi, en tout cas pour le début de ces auditions publiques. Vous aurez l'occasion de nous en reparler, Loïc. Donald Trump, en attendant, aujourd'hui, était chez vous à New York.
Oui, absolument. Le président qui a fait l'impasse sur le cimetière d'Arlington pour ce Veterans Day, très importante célébration dans un pays qui compte 18 millions de vétérans. Au lieu de ça, il était donc à New York, où se tient la plus importante parade du pays pour cette journée des vétérans. C'était d'ailleurs le premier président en exercice à s'y rendre. Donald Trump a prononcé un discours il y a 2h30 environ pour l'occasion. Il s'en est tenu au script. Pas un mot, une allusion à la procédure d'impeachment. Il a tout de même rappelé l'opération très récente qui a conduit à la mort du leader du groupe État islamique. Voilà, mais pas de polémique. A priori, cette année, on se souvient que l'an dernier, Fabienne, en France, il ne s'était pas rendu à une cérémonie pour le centenaire de la Grande Guerre, dans un cimetière américain dans l'Aisne, à cause de la pluie de la météo.
Et bien voilà, aujourd'hui, il aurait trouvé la même météo. En tout cas, Loïc Loury, merci beaucoup avec nous depuis New York.
Fabienne Saintès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, après avoir voté hier pour la quatrième fois en 4 ans, l'Espagne semble à nouveau ingouvernable après un scrutin marqué par la poussée de l'extrême droite. Et pour vous, c'est tout sauf une surprise, et tout sauf un cas particulier. Surtout, l'Espagne est une sorte d'appartement témoin de la crise de la démocratie. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux ce qui se passe chez nos voisins. C'est votre Monde à l'envers.
Oui, Pedro Sanchez a joué et il a perdu. Je vous l'accorde, le Parti Socialiste du Premier ministre espagnol sort en tête du scrutin avec 120 sièges. Mais d'abord, il est en léger recul et puis surtout, il semble encore moins en capacité qu'avant de former une coalition de gouvernement avec un paysage politique en effet de plus en plus éclaté où l'extrême droite donc de Vox est devenue la troisième force politique du pays, 52 sièges. Petit flashback, il y a encore 4 ans, l'Espagne vivait toujours au rythme du bipartisme, un coup à droite avec le Parti Populaire, un coup à gauche avec le Parti Socialiste. Mais aujourd'hui, le pays compte pas moins de 6 forces politiques significatives, incapables jusqu'à présent de trouver un accord entre elles. Donc il n'y a pas de majorité viable, a fortiori avec un système électoral à dominante proportionnelle. Le bipartisme a explosé en vol. Et pas seulement en Espagne, un peu partout en Europe, en fait, le choix s'est comme ça longtemps limité à l'alternative entre un parti conservateur d'un côté et un parti progressiste de l'autre. C'est fini, les paysages politiques sont fragmentés. L'autre exemple flagrant, c'est évidemment le Royaume-Uni. Aucun des deux partis traditionnels, Tories et Labour, n'a plus de majorité à lui seul, avec pour conséquence, on l'a bien vu, une incapacité consternante du Parlement britannique à s'entendre sur le Brexit. En Italie, l'instabilité est de mise, même si en ce moment l'accord tient entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles. En Israël, les majorités sont devenues introuvables. Et même en Allemagne, la grande coalition CDU-SPD est à bout de souffle. Là encore, les partis habituels de gouvernement sont en recul, voire en chute. Le paysage compte désormais 5, voire 6 partis. L'instabilité menace, oui, la démocratie représentative.
Et les causes, alors, ce sont les mêmes partout ?
Alors, il y a des spécificités dans chaque pays. Évidemment, on ne va pas le nier. La question de la Catalogne en Espagne, le bazar du Brexit au Royaume-Uni. Royaume-Uni. Mais il y a des points communs, oui, au moins deux. Le premier, c'est ce sentiment exprimé par de nombreux électeurs, notamment en Espagne, mais un peu partout en Europe, que dans toutes ces démocraties représentatives, le pouvoir a été confisqué par une élite qui se répartit les portefeuilles, avec pour seule préoccupation des intérêts individuels, des logiques de parti qui sont très éloignées de l'intérêt général. Ce risque, il est d'ailleurs identifié depuis longtemps, il y a une forme de servitude dans la démocratie représentative, soulignait qui Jean-Jacques Rousseau il y a 2 siècles et demi. Ouais. Et oui, aujourd'hui, ce sentiment chez les électeurs, il est conforté par la crise économique et il est conforté par l'envie d'un pouvoir sans doute plus horizontal, à un moment où les réseaux sociaux permettent l'interpellation de tous par tout le monde. Le deuxième point commun, c'est l'essor de la radicalité, le refus du dialogue. Et il est encore plus directement lié aux réseaux sociaux parce qu'ils confortent chacun dans ses certitudes. Ils poussent à la formule assassine, on le sait. Ils enferment dans une sorte de cercle fermé avec celles et ceux qui sont d'accord avec vous. Et sur le plan politique, ça se traduit comment ? Par la poussée des partis les plus radicaux et donc par le refus du compromis. Ça rend très difficile la constitution de coalition de gouvernement.
Alors, il y a des solutions ou pas ?
C'est pas évident. Il y a bien une solution de forme via le système électoral. Donner une grosse prime aux partis qui arrivent en tête, c'est en gros le système français, à l'opposé de la proportionnelle, si vous voulez. Sauf que ça reste un système inéquitable. Et surtout, il y a un risque majeur. C'est que le jour où un parti extrême sort en tête, même s'il n'a que 30% des voix, mettons, il peut se retrouver avec tous les pouvoirs. Il reste la solution de fond, instaurer ou restaurer une culture du dialogue, du compromis entre partis politiques. C'est ce qui, jusqu'à présent, a toujours fait la force de l'Allemagne, ce qui lui permettra peut-être demain, d'ailleurs, de composer des coalitions New Look. C'est ce qui manque à l'Espagne. Les deux partis qui auraient pu s'allier avec les socialistes, l'un de gauche, Podemos, l'autre de centre-droit, Ciudadanos, viennent d'ailleurs tous deux de reculer dans les urnes. Il y a peut-être un lien avec leur refus du compromis. Sans recherche du dialogue et donc d'un intérêt général médian, le risque est vraiment énorme de voir la colère grandir contre les gouvernants, de voir s'affirmer l'envie d'un dirigeant fort pour, passez-moi l'expression, mettre de l'ordre là-dedans. Si elle n'a plus d'aptitude au compromis, la démocratie représentative risque le harakiri.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Fourcq, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, nous on reste ensemble, que vous soyez dans les bouchons de retour de week-end ou tranquille chez vous. Le téléphone sonne, c'est dans un instant, et puis Sébastien Paour pour le journal juste avant.